Bonsoir. Sevré de match depuis un mois, les rugbymen français sur la pelouse de Twickenham. Depuis un petit quart d'heure, le crunch du tournoi pour faire oublier la tension du cluster. Nous serons à Londres dans une minute. Encore des retards de livraison de vaccins annoncés par AstraZeneca. Les labos nous font quelques misères, dit le Premier ministre, qui souhaite dépasser l'objectif de 10 millions de personnes vaccinées mi-avril. En Russie, tous les participants à un forum de l'opposition arrêté par la police, notre correspondant nous racontera. Encore des averses demain, Météo France à la fin du journal.
France Inter.
C'est le match de l'hiver pour tous les amateurs de rugby Angleterre-France dans le tournoi Destination, d'autant plus attendu que les Français n'ont pas joué depuis 3 semaines à cause de ce qu'on a appelé l'épisode cluster Covid à Marcoussis. Un mois après une victoire en Irlande, les Bleus jouent à Twickenham où ils cherchent une victoire depuis 15 ans. Direction donc Londres sans plus attendre. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Un stade vide et un début de match serré, Richard.
Oui, 10 à 7 en faveur de cette équipe anglaise, mais un très beau début de match avec une équipe de France qui a frappé fort d'entrée par Antoine Dupont qui a marqué un essai suite à un astucieux petit coup de pied par-dessus de Teddy Thomas et s'est transformé par Mathieu Jalibert. Et dans la foulée, les Anglais ont eu une grande session qu'ils ont imposée aux Français, un gros défi physique avec des percussions violentes qui ont fini par payer pour créer le décalage pour l'ailier Anthony Watson qui a pu remettre son équipe à égalité après la transformation d'Owen Farrell. Ce même Owen Farrell qui vient à l'instant de passer une pénalité qui permet à cette équipe anglaise d'être devant au tableau d'affichage. 10 à 7 pour l'Angleterre. On joue depuis un petit peu plus d'un quart d'heure.
Richard Place pour nous faire vivre Angleterre-France. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. Dans l'après-midi, les Italiens ont sauvé l'honneur en inscrivant un essai au Stadio Olimpico à Rome face au leader du tournoi. Le Pays de Galles écrasant vainqueur avec 7 essais. Score final 48 à 7. L'Écosse et l'Irlande jouent demain. France Inter, il est 18h02. On n'en a sans doute pas fini avec le bras de fer entre l'Union européenne et AstraZeneca. Le laboratoire anglo-suédois annonce aujourd'hui de nouveaux retards dans les livraisons de son vaccin en Europe. Dans le détail, seuls 70 millions de doses seront livrées au deuxième trimestre sur les 180 initialement prévus dans les contrats. Alors après des problèmes de rendement dans son usine belge, AstraZeneca, qui produit son vaccin hors Union, invoque maintenant des restrictions d'exportation vers l'Europe. Pas de quoi perturber toutefois l'accélération de la campagne de vaccination en France, assure le Premier ministre en visite ce matin dans un centre de vaccination à Saint-Mexant-l'École dans les Deux-Sèvres, suivi par Elia Bergel.
Jean Castex a lancé une mise en garde officielle. Le mois d'avril sera chargé sur le front de la vaccination.
On va avoir normalement, à partir de début avril, un défi très lourd à relever, hein, parce que là, on va avoir beaucoup de vaccins.
En avril, le centre de vaccination de Saint-Mexant-l'École dans les Deux-Sèvres passera de 300 à 900 personnes vaccinées par semaine. Résultat, le chef du gouvernement s'accorde le luxe de l'optimisme.
On s'est fixé, vous l'avez entendu, un objectif national de 10 millions de primo-vaccinations le 15 avril. Je ne désespère pas qu'on le dépasse. Hein. Mais il vaut mieux être prudent, d'autant que vous avez vu que les laboratoires nous font parfois quelques misères dans le respect des délais de livraison.
Ce matin, le groupe AstraZeneca a en effet annoncé des retards de livraison de son produit au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, 27 200 habitants des Deux-Sèvres sur les 374 000 du département ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, ce qui donne une couverture vaccinale d'un peu plus de 7%.
Reportage Elie Abergel, France Bleu, Poitou. Pendant ce temps, la situation se tend dans les hôpitaux d'Île-de-France. 3 premiers patients ont été transférés vers les hôpitaux de Nantes, Angers et Le Mans. En attendant, 4 autres transferts demain vers Bordeaux en particulier, ce qui n'était pas arrivé depuis la première vague. Des patients des Hauts-de-France sont aussi arrivés en début d'après-midi à Saint-Malo. Et puis le centre de détention de Muret, près de Toulouse, est lui placé sous haute surveillance d'après France Bleu Occitanie. 41 cas positifs aux variants britanniques qui ont été détectés sur 600 personnes. Dans les EHPAD, la moitié des résidents bénéficient d'une protection complète, 15 jours après 2 doses de vaccin. Et le protocole est désormais assoupli. Quel que soit leur statut vaccinal, les résidents des EHPAD doivent retrouver les mêmes droits que le reste de la population, comme voir leurs proches, dit la ministre. Ils sont donc autorisés à sortir. Et alors que le gouvernement n'exclut pas de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les opposants à la loi sécurité global cherchent, eux, à remobiliser. Début des manifestations aujourd'hui, avant que le Sénat ne discute de cette loi à partir partir de mardi. À Lyon, plusieurs centaines de personnes, gilets jaunes, militants pour dénoncer l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image de policiers. Article réécrit, mais qui reste dangereux selon Bastien Lequérec, membre de la quadrature du Net. Il répond à Mathilde Imberti.
En réalité, ce sont de véritables écrans de fumée. La commission des lois partage l'objectif politique qui est de renforcer le pouvoir de la police. Et elle n'a fait que des modifications mineures de façade. Effectivement, les drones vont être un tout petit peu plus encadrés, mais leur finalité reste très large. Les drones pourront être utilisés pour des finalités qui ne devraient pas exister, notamment des finalités sécuritaires. Et l'objectif, c'est vraiment de limiter le plus possible le fait que les citoyens et citoyennes peuvent filmer la police. Et c'est la police qui contrôlera de plus en plus les citoyens et les manifestants dans la rue. L'article 24 a été modifié, mais le fond reste tout autant problématique et aucun garde-fou réel n'a été apporté, encore moins envisagé la suppression de ces articles.
Bastien Lequérec de la Quadrature du Net dans la manifestation lyonnaise. Deux jeunes hommes radicalisés interpellés cette semaine par les forces de l'ordre. L'un, mineur de 17 ans, arrêté à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines avec le projet de s'en prendre à des militaires. L'autre arrestation qui n'est pas liée avec la première a eu lieu à Marseille. Là, ce jeune de 18 ans avait renoncé à se rendre dans la zone irako-syrienne. Il projetait, lui, une action violente en France. Ils sont présentés à un juge antiterroriste. En Russie, la police s'est illustrée dans une opération inédite, celle d'arrêter massivement tous les participants à une réunion politique d'opposants au Kremlin. Elle est arrivée moins d'une heure après le début d'un forum organisé dans un hôtel de Moscou et elle a embarqué les 150 participants dans des fourgons garés devant le bâtiment. À 6 mois des législatives, Claude Bruyot, les opposants dénoncent l'intimidation du pouvoir.
Le non-respect des règles sanitaires, c'est la version officielle des autorités pour justifier ces nouvelles arrestations massives d'opposants au Kremlin. Même si la plupart d'entre eux ont été relâchés par la suite, après avoir été toutefois dûment fichés dans plusieurs commissariats à l'est de Moscou, il ne fait guère de doute que l'objectif réel était surtout de faire obstacle à l'événement politique en tant que tel. Parmi les personnalités interpellées figurait en effet Yevgeny Roisman, l'ancien maire d'opposition de Yekaterinbourg, la troisième ville de Russie, ou encore l'opposant bien connu Vladimir Karamurza, ainsi que d'autres proches de l'oligarque exilé Mikhail Khodorkovsky. Tous tentent, sous l'appellation « démocrates unis », jugés indésirables en Russie, de présenter un front d'opposants rassemblés en vue d'essayer de perturber l'élection des candidats du parti au pouvoir Russie Unie lors des élections régionales et locales de septembre prochain. Une perspective qui inquiète visiblement le Kremlin, déjà fort occupé à étouffer la dynamique du vote intelligent développé par le collectif d'Alexei Navalny et toujours mis en avant en dépit de l'absence de son leader emprisonné. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Son expérience, son bilan et la continuité, voici les ingrédients de la victoire quasi stalinienne de Noël Le Graët, reconduit à 73% à la tête de la Fédération française de football, élu sans discontinuer depuis 2011 à 79 ans. Noël Le Graët entame donc son troisième mandat. Le temps pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Goulinski, Météo France.
Des averses moins fréquentes ce dimanche, sauf du Dauphiné en remontant vers le quart nord-est où les giboulées vont défiler avec un risque de flocons jusqu'en plaine et souvent de la neige en quantité sur les massifs au-dessus de 800 mètres et attention au risque d'avalanche qui augmente sur les Alpes. Du nord de la Seine au massif central et au sud de la Garonne, les intermèdes d'averses seront épars entre deux éclaircies avec éventuellement de la neige vers 600 mètres sur l'Auvergne et plus certainement au-dessus de 1000 mètres sur les Pyrénées. Un temps plus sec et ensoleillé va dominer dans le triangle Bretagne, Basse-Normandie-Poitou-Charentes et autour de la Méditerranée où là le vent sera très turbulent. Les températures diurnes ne vont pas beaucoup bouger, par contre les matinales seront plus fraîches que la veille dans la moitié nord du pays.
Merci Jean-Michel Goulinski, Météo France.